Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bonjour et bienvenue dans Tap 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 qui est là, podcast aujourd'hui présenté par Élise Roger et par Marie Bernanos, enseignante-chercheuse spécialiste de théâtre jeunesse et présidente de l'association Théâtre à la Page. Bonjour Marie.
Bonjour Élise.
Théâtre à la Page est de retour sur la 90.8 après quelques semaines, longues semaines d'interruption, et nous y parlons toujours de théâtre, d'œuvres écrites pour la jeunesse. Pour cette maintenant cinquième émission de la saison, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Merceron, comédienne, autrice, avec déjà 4 pièces publiées en collection jeunesse. Sa pièce Les Pieuvres, parue en 2021 aux éditions de l'École de loisirs, est cette année à la sélection de Théâtre à la Page sur la thématique du rapport au handicap.
Ta 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 !
Tout de suite, les questions, les réponses.
Donc Sophie Merceron est avec nous au téléphone. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Marie, je te laisse poser tes
questions. Oui. Bonjour Sophie, nous sommes vraiment très très heureuses de pouvoir échanger avec vous.
Alors, bonjour vous... Marie, bonjour Élise, moi aussi je suis ravie.
Alors, vous avez d'abord été comédienne et puis vous avez ensuite basculé dans l'écriture et publié 5 pièces, dont 4, comme le disait Élise, dans la collection jeunesse de l'École des loisirs, qui était dirigée par Brigitte Smadja, malheureusement décédée l'année dernière. Et donc, comme on l'a appris récemment du directeur de l'École des loisirs, cette collection sera reprise par son assistante Sylvie Balul, ce dont nous sommes vraiment très très heureux. Alors, en collection jeunesse, vous avez publié « Avril » en 2019, « Manger un phoque » en 2020, « Les pieuvres » en 2021, la pièce qui est dans notre sélection de cette année, et « Je suis un lac gelé » en 2023. Et en collection généraliste, c'est « Nebraska au solitaire intempestif » en 2023. Autrement dit, vous publiez en gros une pièce par an, il va falloir tenir le rythme quand ce n'est pas deux. Et fait
noter... C'est surtout les éditeurs qui doivent tenir le rythme.
Oui.
C'est surtout ça.
Et fait notable, vous êtes la seule à avoir remporté le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse 2 années de suite. Il se trouve que j'ai fait partie du jury et je sais ce que cela veut dire que, concernant la valeur de la pièce choisie en 2021, Manger un phoque, parce que ça n'est pas très, très habituel. Donc voilà, bravo pour ça. Alors, dans un entretien réalisé par Arsena, qui est disponible en ligne, et il y a d'ailleurs question des pieuvres, pour le Grand Prix de littérature dramatique 2020, à propos d'Avril, vous expliquez comment vous êtes tombée dans le théâtre par un mensonge, et c'est assez savoureux, alors j'ai envie de vous proposer de nous raconter comment vous êtes tombée dans cette marmite.
Effectivement, en fait, tout a commencé par un mensonge. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas du tout de livres chez moi. On était très loin de la culture. On n'allait pas du tout au cinéma et encore moins au théâtre. Et voilà, par le métier de mon père, on était amené à déménager très souvent, tous les 2 ans à peu près. Et j'étais une enfant assez timide. Et voilà, donc c'était pas évident de se faire des nouveaux amis à chaque fois quand on déménageait autant. Et puis, l'année où je suis rentrée au collège, donc c'est toujours une année un peu particulière quand,
oui,
on,
oui.
Voilà, quand on est jeune adolescent et qu'on rentre en sixième. Voilà, donc je débarquais dans un nouveau village et notre professeur principal, qui était aussi notre professeur de français, le premier jour de la rentrée, nous demande de mettre donc nos prénoms, d'écrire nos prénoms sur nos tables et nous dit voilà, je voudrais qu'on fasse un tour de la classe et que chacun, vous me disiez ce que vous aimez faire en dehors de l'école. Ça me permettra de vous connaître mieux. Si vous avez des activités, des choses que vous aimez qui vous passionnent ou en tout cas qui occupent votre temps en dehors des cours. Alors moi, j'étais plutôt au fond de la classe, ce qui s'avéra être aussi comme ça pendant toute ma scolarité. Et voilà, chacun en fait prenait la parole et je trouvais que tout le monde faisait des trucs super. Enfin, alors évidemment, il y avait du foot, du basket, mais les gens faisaient aussi des cours de cuisine. Il y en avait qui vivaient dans des fermes, donc voilà, ils s'occupaient des animaux. Enfin, tout me paraissait un peu exceptionnel et bon. Voilà, et moi je me disais, ben moi je fais rien en fait, j'avais eu le temps de m'inscrire nulle part et je faisais rien, en soi c'est pas grave, j'aurais pu l'avouer tout simplement, mais c'est vrai que quand on est ado, on a, enfin moi en l'occurrence, j'avais pas du tout envie de me faire remarquer, je préférais plutôt ressembler à tout le monde que, enfin voilà, au moins comme ça on s'occupait pas trop de moi. Et en fait, ça arrive à moi, j'avais le cœur qui battait très fort, je me souviens, et là, je sais pas, il doit y avoir un petit monstre, un petit alien qui a parlé à ma place, et j'ai dit, eh bien moi, je fais du théâtre. Je sais pas du tout comment cette chose-là est arrivée, parce que je n'avais jamais ouvert un livre de théâtre, je n'étais jamais rentrée dans un théâtre de ma vie, je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. Et en fait, plutôt que de passer aux camarades à côté de moi, le professeur, ça l'a totalement intrigué parce que on était très très loin des théâtres dans cet endroit-là. Le premier théâtre, je crois, était à une cinquantaine de kilomètres. Et donc, il a insisté. Il m'a dit « Ah bon, mais où ça ?» Et en fait, plutôt que, je sais pas, de noyer le poisson en disant je bidouille des trucs dans mon garage, et ben j'ai continué dans ce mensonge en me disant au conservatoire. Et en fait, le conservatoire était aussi très très loin, à 50 kilomètres, et donc là, ça l'a vraiment surpris, et il m'a dit, bah écoute, peut-être il faudrait qu'on se voit à la fin du cours pour aménager tes devoirs, parce que voilà, si tu prends des cours au conservatoire, voilà, il faut qu'on parle de ça pour voir comment ça va se dérouler ta scolarité. Et en fait, bon, quand j'étais gamine, j'étais forte pour deux choses. La première, c'était me cacher. Je me cachais tellement bien que parfois on oubliait de me chercher et je courais très vite. Et donc, j'ai fait appel à cette deuxième compétence à la fin du cours. Et je suis partie très, très vite en courant. Et il a dû se demander ce qui se passait. Et en fait, le soir, en arrivant chez moi à table, j'ai dit à mes parents, voilà, il faut que je vous dise quelque chose, je voudrais faire du théâtre. Et là, ils m'ont regardé avec des yeux ronds comme des soucoupes, avec le pain qui leur est tombé de la bouche. Et j'aurais dit, je veux faire du théâtre au conservatoire. Alors là, c'est carrément leurs dents qui sont tombées, je crois. Et ils m'ont dit, bon, bah, ok. Et voilà. Et donc, j'ai passé fallait quand même passer un petit concours, même si j'étais collégienne, pour prendre des cours du soir. Et voilà. Et après, je me suis plus jamais arrêtée. J'ai fait en sorte que ce mensonge devienne réalité et c'est devenu ma vie, en fait.
Ah, je pense aux jeunes qui nous écouteront par le podcast, les jeunes qui participent à Page de Théâtre. Là, on est en train de faire un éloge du mensonge pour la bonne cause. Et comment ça s'est passé entre le jeu et l'écriture ?
Donc j'ai été comédienne pendant longtemps. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait le conservatoire. J'ai eu la chance de jouer tout de suite après. Voilà, j'aimais beaucoup ça, mais il me manquait quelque chose. Enfin, j'avais ce désir d'écrire qui était très très fort, mais parfois on peut être encombré par ce qu'on appelle, je sais pas comment dire autrement, mais la légitimité aussi certainement de l'endroit où je viens, où il n'y avait pas de livre, où j'ai découvert la littérature très tard, et donc voilà, j'ai découvert les livres vraiment très tard. Aussi par un hasard, j'ai découvert la littérature, mais je me suis engouffrée dedans. Et mais entre lire beaucoup et justement découvrir plein de choses qui me fascinaient et avouer que moi j'écris, il y avait vraiment un énorme fossé. Donc j'ai mis beaucoup de temps à assumer ça. Et voilà. Et en fait, mon premier texte, véritablement le texte que j'ai fait lire, c'était Avril en fait, et je l'ai fait lire à Brigitte Maja. Ça a commencé comme ça, donc finalement assez tard. Et je dis j'étais comédienne parce que maintenant l'écriture a pris absolument toute la place et j'ai plus le temps de jouer. Je crois que j'en ai même plus le désir en fait.
Mais si je ne me trompe pas, Avril a été présentée aussi aux EAT,
avant.
Parce que je l'ai lu dans ce cadre-là, moi. J'étais dans le comité de lecture des EAT.
Oui, il avait eu le prix à la fois, j'avais été très surprise, à la fois grand public et jeune public, année, s'il me semble.
Oui, je me souviens bien aussi, oui, ça nous avait frappé cette pièce. Et donc, l'aventure d'écriture aujourd'hui, elle est bien installée là, en vous.
Oui, elle occupe tout mon temps,
vous
mon
ne jouez
énergie,
plus.
Tout,
vous
tout
ne jouez
mon
plus.
Esprit aussi et... Voilà, je crois que c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être maladroit de dire ça comme ça, mais je crois que c'est la première fois, à l'âge que j'ai, il était temps, mais c'est la première fois que j'ai l'impression d'être exactement à l'endroit où j'ai envie d'être, en tout cas, quand j'écris.
C'est très beau, ça. Oui. Et vous n'avez plus d'activité de comédienne ?
J'en ai un peu encore, mais très peu. Maintenant, je l'ai choisi vraiment. J'ai aucun souhait de jouer dans mes pièces. J'aime pas ça du tout. Oui, Je l'ai fait un petit peu pour une commande qui m'a été faite et j'ai aucune velléité de mise en scène non plus. Donc voilà, j'aime vraiment être à l'endroit d'écriture et je joue vraiment quand il y a des projets qui me plaisent. Mais je vis presque ça maintenant comme si on me volait un peu de temps sur l'écriture. Donc c'est particulier. D'accord.
Alors, on va passer à la question suivante, celle de l'adresse à la jeunesse. Vous êtes-vous retrouvé dans cette part du théâtre? Alors moi, je dis de moins en moins le théâtre pour la jeunesse, parce que je crois que c'est beaucoup plus compliqué que cette adresse en ligne droite. Je crois que c'est plutôt en direction de la jeunesse et avec la jeunesse. Donc comment est venue cette adresse?
Vraiment par hasard, parce que donc c'est venu avec la pièce Avril, où je voulais faire parler cet enfant. Et il s'avère qu'après, c'est quelque chose qui a continué et qui m'habite encore vraisemblablement. Je crois que j'ai encore des choses à dire par rapport à ça. Enfin, donner la parole à des enfants ou des adolescents. Et voilà, je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire, parce que on m'a beaucoup demandé pourquoi j'écrivais pour la jeunesse, et j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question, enfin en tout cas à dire quelque chose d'intéressant là-dessus.
Oui, c'est une mauvaise question.
J'avais l'impression de non, mais longtemps mais il y a des gens qui, des auteurs qui répondent très bien, et je me dis ah mais oui, ils ont raison. Oui. J'ai toujours du mal à trouver ma vérité à l'intérieur de ça, mais je crois que celle qui s'en approche le plus, c'est que j'ai la sensation, alors peut-être c'est de la cuisine d'auteur, mais j'ai pas la sensation d'écrire pour l'enfance, mais j'essaie plutôt, je suis pas sûre tout le temps y arriver, mais d'écrire depuis l'enfance.
Oui.
Dans ce sens que pour l'enfance, pour moi, ce serait comme si je me penchais presque de manière maternelle vers les enfants, vers les adolescents, en tordant mon écriture, en me disant, bon voilà, quel thème je dois aborder. Ou écrire depuis l'enfance, c'est quand même une autre position d'écriture, je trouve, parce que j'essaie de voir comment un enfant ou un adolescent d'essayer de voir le monde par son prisme, en fait. Comment est-ce qu'il voit le monde, en ayant peut-être une vie qui n'est pas toujours facile, même s'ils sont jeunes, ces personnages-là, et comment il appréhende le monde, comment il parle, comment il voit l'avenir, enfin voilà comment ses difficultés se traduisent par son langage. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'habite. Ce sont souvent des enfants et des adolescents cabossés, et il se trouve que comme je fais parler des enfants et des adolescents, et en périphérie seulement les adultes, ça a trouvé
son public.
Corps, en fait, en une maison d'édition jeunesse à l'école des loisirs. Mais à la base, c'est plutôt un hasard, en fait, je pense.
Oui, moi, je réponds à ces questions-là, parce que j'y ai évidemment beaucoup réfléchi depuis 20 ans, par la notion de... Alors là, ça s'adresse peut-être aux plus grands de ceux qui nous écouteront, mais je réponds par la notion de devenir enfant de Deleuze, et je trouve que c'est une façon de dire les choses au plus juste de ce que c'est lorsque c'est une vraie démarche artistique profonde. Et alors après, bien sûr, il y a des variantes selon les auteurs, mais moi, ce pour, il me gêne de plus en plus. Moi, je le réserve au cas où des textes viennent d'une résidence d'écriture avec des jeunes, ou des textes joués par des jeunes. Là, je pense qu'on peut dire le pour, et il n'y a rien de méprisable là-dedans, bien évidemment. Mais pour beaucoup d'auteurs, ça n'est pas une écriture pour. Il y a même des pièces publiées en collection jeunesse qui n'ont pas été du tout écrites au départ dans le moindre rapport conscient à l'adresse aux jeunes. Quoi. Il y a plein d'exemples. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, nous allons passer, là, je cède la parole à Élise, nous allons passer aux lectures.
Oui, on a encore plein d'autres questions pour vous, Sophie Merceron, mais avant, on vous propose d'écouter le début de votre pièce « Les pieuvres », qui est parue en 2021 et à la sélection de Théâtre à la page cette année, lu par des étudiantes et étudiants de première année de licence art du spectacle à l'Université Grenoble-Alpes, et qui sont venus enregistrer ce texte à la radio.
Dans le cadre de leur cours consacré au théâtre jeunesse.
Ta, ta, ta. Le théâtre, ça s'écoute ?
Sophie Merceron, Les pieuvres. Personnage,
Simon, Ulysse, Anna. Dans les vestiaires. Simon est en slip de bain, pieds nus, un bonnet de bain sur la tête, lunettes de plongée relevées. Il frappe à la porte des toilettes.
Simon.
Ulysse, ouvre la porte.
Ulysse.
Non.
Ulysse, ouvre la porte. Sois pas bête, ouvre la porte.
Non et non.
Ulysse, tu vas pas y rester toute la nuit dans les toilettes. Sors, s'il te plaît.
Silence.
Ulysse. 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 Ulysse.
Silence.
Allez, je te donne mon sandwich si tu ouvres cette porte.
Ulysse ouvre la porte. Il sort. Il est en slip de bain. Un bonnet sur la tête, lunettes de plongée sur les yeux.
J'en veux pas ton sandwich.
Ah bon? T'en es sûr?
J'en veux pas de ton sandwich.
D'accord, comme tu voudras.
Ulysse s'assied sur un banc. Tant. Simon le rejoint.
Ça va?
Non.
Allez, Ulysse, te casse pas le bonnet avec cette histoire. Ces filles, c'est que des morveuses.
Elles m'ont appelée Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc! J'y retournerai plus jamais dans cette piscine pourrie. Plus jamais.
D'accord, comme tu voudras.
Tant.
J'aurais pu. Je sais que j'aurais pu. Il était pas si haut, ce plongeoir. Mais ce type-là, pourquoi il me crie dessus? Avec son slip de bain et tous ses muscles à me crier dessus. Y a pas le feu. Juste une minute de plus, y a pas le feu. Et puis pourquoi il la met aussi loin, sa perche? Il sait bien qu'elle est trop loin à me crier dessus. Et toutes ces filles-là, à faire les sirènes dans la flotte avec leurs frites. Alors après, ça se brouille. C'est tout brouillé devant mes yeux. Et la voilà qui revient, la voix. C'est comme ça. Je voulais pas. Je fais des efforts pourtant, tu sais ça. Pour qu'elle s'en aille de mon crâne. Je fais des efforts. Mais elle revient. Voilà. C'est à cause de lui aussi, hein. Avec son slip et son bonnet et tous ses muscles.
Tant.
Ça va, Ulysse? Elle est toujours là, la voix. Tu l'entends, là?
Non, elle est partie. C'était seulement tout à l'heure, en haut du plongeoir.
D'accord.
Ulysse retire ses lunettes de plongée. Simon partage le sandwich. Il mange.
Tu sais, Simon, j'allais le faire, son plongeon. J'y étais presque. C'est à cause de lui aussi.
Je sais, Ulysse.
Avec son slip ridicule, ses claquettes, son bonnet qui lui comprime le cerveau. Pas étonnant qu'il soit si hargneux. Si j'étais plus fort, je le pousserais dans la flotte avec ses frites.
Je sais, Ulysse.
Longtemps. Comme dans un rêve, Ulysse saute d'un plongeoir, très haut, s'élance dans les airs, tourne et tourne sur lui-même, comme s'il avait des ailes, puis plonge dans l'eau bleue, dans les vestiaires. Ulysse est en jogging, il frappe à la porte des toilettes. Derrière la porte, Simon tousse et respire d'une étrange manière. Ulysse tient dans la main une petite machine, une sorte de petit masque relié à un tube.
Simon, ouvre la porte.
Non.
Simon respire bruyamment.
Simon, ouvre la porte, sois pas bête.
Non.
Ouvre la porte.
Et non.
Simon tousse et respire bruyamment.
Allez, Simon, ta machine, il faut que tu respires dans ta machine. Tu vas encore tourner de l'œil, sinon.
La porte, par-dessous la porte.
Ulysse lui passe la petite machine par-dessous la porte. Tant. Simon sort, il est en jogging lui aussi.
Ça va, Simon?
Ça va.
Simon s'assied sur le banc. Ulysse le rejoint.
T'as bien failli y laisser tes poumons cette fois.
Je déteste ça. La course de haie, je déteste ça. Sauter et courir encore. Et l'autre là avec son sifflet à nous crier dessus de sauter plus haut et courir plus vite. Tout rouge avec son sifflet à sauter les haies. On n'est pas des chevaux.
Simon respire dans sa petite machine.
Tu y étais presque, Simon. Si ce crétin de Kevin t'avait pas poussé, tu y serais, Simon.
J'y retournerai pas. Jamais. Je préfère rester ici, dans ces vestiaires qui sentent les pieds, que retourner là-bas.
Alors je reste là, avec toi.
Simon respire dans sa petite machine.
Tu sais, Ulysse, plus tard, quand je serai grand et fort, j'aurai plus besoin de cette machine. Je pourrai ouvrir la bouche grand comme ça.
Simon ouvre très grand la bouche.
Et je pourrai avaler le vent. C'est le médecin qui l'a dit. La gorge, elle reste pas serrée pour toute la vie. En grandissant, ça va mieux. C'est une histoire de cycle, il a dit.
Oui, mais en attendant, je reste là, avec toi.
Comme dans un rêve, Simon est sur le dos d'un cheval. Le cheval est au galop. Simon a les cheveux dans le vent. Il rit sauvagement.
Ta ta ta!
Tout de suite, les questions, les réponses.
Vous êtes toujours sur la 90.8 dans Tap 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 qui est là, l'émission de théâtre jeunesse de Théâtre à la Page. Et vous venez d'écouter le début de la pièce de théâtre Les Pieuvres, écrite par Sophie Merceron, qui est avec nous aujourd'hui.
Alors, nous allons continuer notre échange, notre entretien. Une petite parenthèse par rapport à ces lectures, dont j'ai d'ailleurs juste regretté qu'on n'entende pas le découpage. Mais bon, ça, c'est un petit détail de grande lectrice du théâtre. J'avais une petite remarque avant d'aborder la question qui va nous occuper ensuite. C'est qu'en fait, cette situation dans la piscine m'a rappelé une pièce dont je ne sais pas si vous la connaissez. C'est « Chlore et froissement de nuit » de Karine Serre et Dominique Paquet, où on a exactement la même situation.
Non, je ne connais pas. Alors, je connais vraiment... évidemment Karine Serre et Dominique Paquet, mais je ne connais pas cette pièce. Non.
Alors, c'est une pièce, il y a d'ailleurs deux volumes, parce qu'elle a eu une suite, qu'elles ont écrite pour un comédien aveugle et une comédienne sourde. Et je trouve qu'il y a un rapprochement intéressant à faire. Et nous avons d'ailleurs eu l'occasion, à Théâtre à la Page, de lire ces pièces. Et Dominique Paquet est une autrice que nous avons souvent accueillie. Enfin voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse.
Je vais découvrir avec plaisir.
Oui, c'est aux éditions Monica Compagny, qui est une jeune femme sourde, qui est donc, on est dans le rapport au handicap, dont nous allons parler, bien évidemment. Alors, ma question, justement, va tourner autour de tout ça. Il est frappant, lorsqu'on lit votre théâtre, de voir à quel point vous avez, finalement, me semble-t-il, un goût prononcé pour l'étrangeté. Et je me suis formulé que l'enfance, dans votre théâtre, était un petit peu le monstre de l'adulte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il me semble que dans cette adresse, on est frappé par la présence de personnages et de lieux en marge. On voit des personnages, comme vous le disiez tout à l'heure, cabossés, souvent abandonnés, des personnages et des lieux entre vie et mort. On a des fantômes, ainsi dans Nebraska aussi, où c'est aussi le zoo abandonné, d'en manger un phoque. Donc, oui. Entre normalité, maladie, folie presque. Donc, comment pourriez-vous réagir par rapport à ces constats ?
Alors, j'ai pas analysé ça, pour tout vous dire. D'autant que je relis très rarement mes pièces, que je m'agace beaucoup, j'ai envie de tout changer quand je relis mes pièces, et puis en fait je me dis non, c'est trop tard, ça y est, c'est en librairie. Là je le fais un peu parce que je participe à un drôle de projet très excitant cette année par l'OCCE,
Théa.
Je suis l'autrice Théa, donc voilà. Donc du coup comme je fais beaucoup de rencontres autour de mes pièces, je les relis effectivement, du coup je vois qu'il y a quand même des liens, des choses qui se retrouvent. Parler de lieux à la marge, ça certainement, les lieux, c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis beaucoup avant même de poser le moindre mot. Je m'inspire beaucoup de photos, de films aussi, mais vraiment beaucoup de photos pour définir l'endroit où ça va se passer. Pour moi, le lieu est presque un personnage à part entière. Alors bon, Avril, c'est particulier puisque c'est un enfant qui peut plus sortir de chez lui, même plus de son placard. Mais sinon, ce sont des lieux souvent bruts et brutaux d'ailleurs. Enfin voilà, d'en manger un phoque et à cette température qui chute, c'est une ville assez rude. Pico passe son temps dans un zoo abandonné. Voilà, dans Nebraska, qui pour le coup n'est pas une pièce jeunesse, mais ça se passe au milieu du désert. Dans Les Pieuvres, dans la deuxième partie, en fait, ça se passe en Moldavie et en Moldavie après une tempête. Mais ces lieux-là, en fait, j'y accorde beaucoup d'importance. En fait, j'ai vraiment besoin. Presque parfois, j'ai l'impression que je vais plutôt écrire un scénario de film qu'une pièce de théâtre. Je m'affranchis totalement de la possibilité que ce soit mis après au plateau. Voilà, je me dis que je me réserve cette liberté-là. Et puis aussi parce que j'ai une grande confiance en l'intelligence et l'imagination des metteurs en scène pour après transposer des choses qui a priori le sont pas sur scène. Et puis aussi parce que souvent, je pense que l'endroit où ça se passe est un reflet de presque de l'état intérieur des personnages. Enfin, d'en manger un fox, cette température qui arrête pas de chuter, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de cette maison, c'est ces enfants qui grandissent. Pico, c'est un enfant, les deux autres sont presque des adultes, enfin, en tout cas ils ont dû grandir beaucoup trop vite dû à la précarité du milieu dans lequel ils sont, mais ils sont dans un rapport où il n'y a plus du tout de bienveillance, dans un rapport gelé et très rude. Et voilà, je vis ça presque comme des miroirs de l'état intérieur des personnages, Et je crois que j'ai un amour pour ces personnages en marge, cabossés, qui ont du mal avec le monde tel qu'il est, enfin le monde tel qu'il débloque surtout. Et ça se traduit évidemment dans leur rapport au monde, mais aussi dans leur rapport au langage qui est accidenté souvent. Et voilà. Donc je pense que d'où ça vient, je sais pas. Certainement un peu de, on met toujours un peu de soi, mais aussi beaucoup d'enfants et d'adolescents que je rencontre. C'est pour ça que j'adore les rencontres avec les enfants et les adolescents, parce que ça me permet de, je leur dis souvent, vraiment, à chaque fois, je ne me lasse jamais de ces moments-là, parce qu'à chaque fois, c'est nouveau. Et aussi, pour moi, c'est une véritable matière. J'ai l'impression d'être une voleuse dans ces moments-là. Je vole des expressions, de visage, des expressions verbales, enfin. Et ça me permet de rester, de tenter en tout cas de rester connectée avec ce moment de la vie qui est quand même un moment inépuisable en nourriture pour un auteur, je dirais.
Oui, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que le pour dont nous parlions tout à l'heure n'est vraiment pas bien adapté en quelque sorte, parce que c'est vraiment de l'enfance et de la jeunesse plutôt.
Oui.
Que par l'écriture.
Oui, tout à fait. Et en fait, ces personnages en marge, je me rends compte que pour tous, même pour Saul, qui est le personnage principal de Nebraska, et tous les personnages qui sont dans Nebraska, qui est pour le coup une pièce tout public. Alors juste une petite parenthèse, il y a une jeune fille qui l'autre jour m'a dit s'il y a du théâtre jeunesse, ça veut dire que le reste est du théâtre vieillesse. J'ai trouvé ça assez drôle.
Oui, moi c'est quelque chose que je dis souvent. Est-ce qu'il faut réserver les pièces de Beckett au type de personnage qu'il présente, enfin voilà, ça n'a pas de sens.
Oui, c'est ça drôle. Mais effectivement, ces personnages-là, ils ont en commun d'avoir vécu un drame, mais moi, je crois que j'aime vraiment, j'adore les orages d'été après l'orage, en fait. C'est vraiment que y a cet orage qui gronde et qui fait peur, et après l'orage, il y a quelque chose qui s'apaise et quelque chose de nouveau qui arrive, et je me rends compte qu'en fait, souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mère est pas là? Pourquoi est-ce que ces enfants sont seuls? Est-ce qu'ils sont morts, les adultes, ou est-ce qu'ils sont partis? Enfin, souvent, c'est les adultes qui me demandent ça, d'ailleurs, pas les enfants. Parce que les enfants, ils ont une faculté de s'affranchir aussi d'un tas de choses, quoi, et d'aller vraiment plus vite, peut-être dans le cœur des choses. Et souvent, je déçois, quand je réponds, je sais pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant le drame, mais c'est après. C'est pas le pourquoi, mais c'est le comment après on va faire pour s'en sortir. Quelle solution on va trouver pour aller mieux, pour tenter d'être heureux, enfin au moins joyeux, et tenter de se remettre debout. C'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, cette reconstruction-là après le drame.
Ça, quand on, enfin là aussi, je pense au plus grand de ceux qui nous écouteront, c'est ce qu'on appelle les esthétiques de la catastrophe, et c'est de l'après-catastrophe. Hein, on peut penser à beaucoup d'auteurs. Je parlais de Beckett. Je pense qu'il y a certains points communs dans la relation au lieu, et cette sensation de catastrophe, je trouve que dans les pieuvres, on la ressent de façon très très profonde et intimement pour chacun des personnages et pour nous qui lisons ou pour le spectateur. Est-ce que vous l'avez ressenti, ce rapport à la catastrophe, dans l'écriture?
Je sais pas quel mot mettre dessus, mais la catastrophe, elle est toujours très présente en fait dans les pièces que j'écris, notamment dans les pieuvres. Enfin, ils marchent au bord du gouffre en fait, ces trois adolescents là, gouffre dans lequel ils pourraient très vite tomber parce que ils sont tous les trois pour le coup bien cabossés au moment où la pièce commence, et puis ils doivent se sortir d'une certaine forme de culpabilité pour les trois de choses qui leur est arrivée, enfin qui est arrivée dans leur vie, duquel ils se sentent responsables, et donc ça c'est très lourd à porter pour des adultes, mais encore plus pour des êtres en construction. Et donc voilà, tout leur travail va être de pas tomber dans ce gouffre, et les solutions, ça va être de s'agglomérer en fait tous les trois, mais comme on peut être à l'adolescence en fait, ces groupes là des forces qu'on peut trouver pour affronter cette tempête qui arrive. Et cette tempête qui arrive, c'est on peut y voir une tempête, mais on la voit pas en fait à la fin. À la fin, ils terminent juste tous les trois le poing levé en disant « je suis un apache, je suis un tigre, je suis une comète ». C'est cette tempête, ça peut être aussi l'âge adulte et puis se dire, oui. voilà, maintenant, oui. Chacun individuellement, on est fragile, mais tous les trois, on est un peu plus fort.
D'ailleurs, je me suis formulée en relisant la pièce et en la travaillant comme j'aime le faire, j'ai été frappée par la manière de nommer le personnage de la jeune fille avec ce qu'on appelle un palindrome, un prénom qui se lit dans un sens et dans l'autre. Et j'y ai vu l'image, je ne sais pas si c'était conscient, d'une féminité qui sauve, parce qu'en fait, c'est un peu ça, la pièce, et qui, justement, lit ce qui est à gauche et à droite d'elle dans une forme de marche vers le futur, vers la joie, vers l'espoir. Vous en aviez conscience en l'appelant Anna ?
Non. Non. Par contre, ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Parce qu'en fait, il y a quand même un cheminement. Les prénoms sont pas choisis du tout au hasard.
Bien sûr.
Je sais qu'avant de faire parler un personnage, je dois le nommer. Je peux pas le faire parler tant qu'il est pas nommé. Mmh. Alors parfois, je fais vraiment des recherches sur l'étymologie du mot du prénom, mais parfois c'est juste parce que ça sonne bien et que ça me raconte une histoire. En soi, juste la solidarité.
Oui, alors Ulysse, on est clair sur l'histoire que ça raconte.
Tout à fait. Oui. Simon, c'était plutôt la douceur, en fait, que ça m'évoquait. Mais Anna, en fait, surtout, il me fallait un prénom que je puisse découper. Parce que Anna, quand elle vivait en Moldavie avec son père, elle s'appelait Anouchka. Quand sa mère l'a ramenée en France, elle lui a dit « Maintenant, tu t'appelles Anna ». Donc, c'est comme si elle avait laissé un morceau de son prénom, enfin, un morceau d'elle, en fait, là-bas. Et Anna, c'est un prénom, je me rends compte maintenant, c'est la troisième fois qu'il y a un personnage qui s'appelle Anna, parce que dans Mon corps vif aussi, il y a Anna, et là, je suis en train d'écrire une Anna, et là, je suis en train d'écrire un personnage aussi qui s'appelle Anna. Donc, vraisemblablement, c'est un prénom qui m'évoque pas mal de choses, et un personnage qui continue d'exister, oui. Et la féminité, oui. Alors ça, c'est pas du tout un choix de départ, mais je crois que, je me rends compte qu'inconsciemment, ce sont souvent, presque toujours, des femmes dans les pièces qui viennent faire bouger les choses.
Oui.
Et des femmes qui viennent de loin, d'un pays étranger, qui sont étranges et étrangères, et qui viennent faire bousculer les choses. Alors, c'est jamais un vrai choix de départ, mais quelque part, je pense que ça en est un, inconsciemment. Mais voilà. Et Anna, effectivement, elle déboule dans ses vestiaires, elle a des cheveux bleus, elle dit que c'est une sorcière et du coup elle amène quelque chose de puissant avec elle.
Oui. Alors si pour aborder ce qui est notre dernier questionnement, ce que nous avons appelé le rapport au handicap, et moi je tiens à ne pas dire le handicap, mais le rapport au handicap, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc là, dans les pieuvres, on est entre handicap mental, physique, avec l'asthme, mais pour moi, l'asthme, moi je n'ai pas envie de dire asthme, j'ai envie de dire difficulté à respirer, ce qui n'est pas la même chose.
Oui.
Et puis handicap social aussi. Donc comment est-ce que... J'ai eu la sensation que dans votre écriture, dans les pieuvres, mais dans les autres pièces aussi, finalement, ça a un grand rapport, me semble-t-il, avec la théâtralité. C'est comme si le rapport à la normalité fonctionnait comme un facilitateur de théâtralité. En d'autres termes, est-ce que le rapport à la normalité, qui est d'ailleurs relative, parce que nous avons tous notre petite part d'anormalité, est-ce qu'en fait, ce n'est pas le rapport même au simulacre, au mensonge, on revient au mensonge fondateur de votre bascule dans le théâtre, est-ce que ce n'est pas en relation avec la théâtralité, justement ? Est-ce que vous n'inventez pas des situations et des personnages qui vont permettre de porter au rouge l'expérience théâtrale ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion ?
Ce qui est sûr, c'est que le fait que ce soit des personnages à la marge, donc là, si on parle plus précisément des pieuvres, et qu'ils aient chacun un handicap, enfin, en tout cas, quelque chose qui les handicape aussi à un moment dans leur vie, qui est surtout nourri de cette culpabilité. Enfin, voilà, pour Anna, son père qui a été dévoré par cette tempête et elle, qui était petite et qui a pas pu le sauver. Pour Ulysse, il y a la perte de ce frère et il est persuadé d'en être responsable. Et puis, pour Simon, qui lui a, à ce syndrome là, de la pensée magique, en fait, qui est persuadé qu'en pensant quelque chose très fort, il va agir sur la réalité. Il trouve coïncidence que son père a quitté la maison à ce moment-là. Il est persuadé d'en être responsable et du coup, il a du mal à respirer. En fait, forcément, ça va influencer leur manière de parler. Voilà, la langue est vraiment quelque chose auquel je m'intéresse. Enfin, je travaille beaucoup mes textes à voix haute jusqu'à m'épuiser moi-même. Enfin, mais parce que j'ai vraiment besoin de savoir que tel mot va dans la bouche de tel personnage et pas un autre. Et forcément, je vais devoir questionner ce rapport à la langue. Comment est-ce que la façon dont ils vont parler va traduire aussi le mal-être qu'ils ont et ce handicap ou cette incapacité d'être au monde comme il faudrait qu'il soit. Donc forcément, ça m'oblige et en même temps c'est vraiment extrêmement excitant en fait d'aller chercher là-dedans comment est-ce que ça va pouvoir se traduire dans la langue. Et puis aussi j'aime beaucoup les personnages imaginaires et le rêve parce que ça me permet et sans dire parfois, enfin voilà, là il y a cette histoire de vestiaire et puis il va falloir qu'ils sortent de ces vestiaires là et donc ils passent par un vœu, mais est-ce qu'ils sont vraiment sortis des vestiaires ou pas, est-ce que ça c'est de l'ordre du rêve, j'irais presque ça c'est des questions secondaires pour moi, mais en oui. tout cas les placer dans des choses qui sont de pouvoir de résilience dans le rêve ou dans l'imaginaire, ça me permet d'aller aussi très loin dans ce qui peut se passer en fait. Dans ce qui peut se passer concrètement. Là, pour le coup, cette tempête, le fait de se retrouver dans le pays d'origine d'Anna, voilà. Ça me permet de sortir d'un certain réalisme aussi.
Oui. Il me semble que ce que vous êtes en train de nous dire, là, ça explique ce que l'on ressent à la fin de la pièce. On peut avoir la sensation qu'il y a peut-être, mais je ne sais pas si je le formulerai comme ça, mais on pourrait dire qu'il y a une fin, une sorte d'esquive de la fin. Ça n'est pas une vraie fin, mais en même, d'un point de vue réaliste. Mais en même temps, il y a une fin dans le sens où, finalement, ce qui est formulé, c'est la résilience que représente la magie théâtrale, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut formuler ça comme ça ?
Oui, j'aime bien en fait ce terme d'esquive. Je vois bien que parfois on me renvoie une certaine forme de frustration par rapport à cette fin. Oui. Mais je crois qu'en fait ça m'amuse. J'aime bien ça parce que je me rends compte que c'est la seule pièce, je crois, que je termine par noir. Enfin, en mettant noir, comme vraiment où pour le coup je prends le code du théâtre. Vraiment et de manière très cut. Et ça m'est arrivé assez souvent que des ados qui lisent cette pièce-là me disent « Mais est-ce qu'il va y avoir Les Pieuvres 2 ?» Je leur dis « Surtout pas, à vous, écrivez-la, mais moi, non. » Parce que en fait, j'aime bien que ça s'arrête de cette manière-là, qui n'est pas une véritable résolution, parce que ils sont vraiment au bord de quelque chose, en fait. Ils laissent quelque chose derrière eux.
Ça ne peut pas être un happy end. Ça n'est pas possible.
Ah non. C'est pas
Surtout
possible,
pas.
De toute façon. Enfin, oui. Non, parce que tout à l'heure, je parlais de théâtre jeunesse et de théâtre, tout public. Je disais que, bon, voilà, que le levier d'écriture, pour moi, il est le même, que j'écrive une pièce pour les adultes ou pour une pièce jeunesse. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que je pense que pour la jeunesse, on leur doit quand même l'espérance, je pense.
Oui.
Les adultes, ils peuvent se débrouiller avec des choses plus sombres. Mais même, les pièces à l'école des loisirs se terminent sur quelque chose de lumineux. J'ai pas envie d'arnaquer quand même avec des happy ends parce que ça n'existe pas.
Oui, mais tout à fait.
Par contre, vers quelque chose d'ouvert, oui, vers quelque chose de possible et en devenir, Et les pieuvres, c'est ça en fait. C'est que ils se sont trouvés en fait tous les trois. Donc maintenant, ils tiennent la main, ils ont le poing levé. Ces pieuvres là qui sont dans la tête, ils ont fini par les dévorer. Ils disent qu'ils sont forts comme des Vikings, ce qui était quand même pas gagné au départ. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de possible.
Oui, et c'est en cela d'ailleurs que cette pièce, comme beaucoup de pièces jeunesse, et sans doute les meilleures, sont vraiment des objets parfaits pour des cafés philo ou des échanges philosophiques. Enfin, moi, si j'enseignais la philo en terminale, je ferais lire du théâtre jeunesse pour cette raison-là, le rapport à la joie. Mmh. Alors, si on va du côté de la philosophie, c'est Spinoza, c'est Nietzsche, c'est la joie de l'artiste enfant. Enfin, voilà, j'y vois des choses très, très profondes qui ne sont pas formulées, mais qui pourtant sont là. Et je trouve qu'Anna, de ce point de vue-là... représente cette marche vers le futur, vers le possible, en fait.
Oui, oui.
Eh bien, je crois que nous allons nous arrêter sur cette belle conclusion philosophique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On est vraiment ravis d'avoir pu vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Campus et en podcast. Et on rappelle bien sûr que... tout le monde peut acheter Les Pieuvres dans votre librairie la plus proche de chez vous et le lire parce que c'est quand même une expérience de lecture très très belle.
Et nous ne savons pas encore quelle sera la pièce ou quelles seront les pièces qui auront le coup de cœur des plus jeunes et des plus grands de nos lecteurs. Mais grand suspense, nous saurons ça pour le début du mois de juin, fin mai, début juin. Donc voilà, peut-être à bientôt Sophie pour les résultats.
Merci en tout cas pour cet entretien, c'était tout à fait réjouissant. Merci beaucoup.
Mais merci aussi, merci.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré aux coudes, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine, que mes yeux sont bleus marines, tu les avais repérés, sans qu'il y ait un regard, et t'avais appliqué. Maintenant je paie l'effet retard. Avant de toucher le je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin-chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. J'ai piscine, dans ton petit pull marine.
Tout de suite, les questions, les réponses.
Vous venez d'entendre Pull Marine d'Isabelle Adjani qui, comme les pieuvres, évoque la piscine, la plongée et la remontée. Et vous êtes toujours bien sûr sur la 90.8 dans Tap 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 qui est là, l'émission qui vous parle de théâtre jeunesse. La fin de l'émission approche, alors c'est l'heure du petit point actualité de Théâtre à la Page. L'association Théâtre à la Page est très heureuse de vous annoncer que dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, qui a lieu sur tout le territoire français, un des écrivains de la sélection, Philippe Gauthier, qui est l'auteur de la pièce Champ de mine, sera présent à Grenoble pour rencontrer des classes dans le cadre de l'action Page de Théâtre, et ce sera le vendredi 7 juin. Par ailleurs, on vous annonce également que Théâtre à la Page sera présent au festival Palindrome, qui est un festival qui se déroule à Laval, dans la vallée du Grésivaudan, du 18 au 20 mai prochain. Un festival qui est consacré au théâtre jeunesse et jeune public. Ça réunira des groupes de jeunes qui présenteront leur travail théâtral et des compagnies professionnelles comme le Tourac Théâtre. Dans le cadre de ce festival, sera aussi organisé un temps de colloque qui sera animé par notre chère Marie Bernanos, ici présente, les matins du 19 et 20 mai. Et nous arrivons donc à la fin de cette cinquième émission de Tap 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 qui est là, et j'espère qu'elle vous a plu et que vous aimerez écouter les prochaines. Si vous voulez réagir, nous poser une question ou même nous rejoindre, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse théâtrealapage@gmail.com et nous vous répondrons avec plaisir. Pour les prochaines émissions, nous recevrons les auteurs et autrices de la sélection et nous aurons également la chance de nous entretenir avec Marie Astier et Catherine Hergreaves qui parlent de la présence du handicap. Marie Astier qui, dans son travail de thèse, parle de la présence et de la représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française. À très bientôt, c'était Marie Bernanos et Élise Roger pour Théâtre à la Page.
Et 1, 2, 3, 4
Tape, si je veux.
Qui est là?
C'était Théâtre à la Page.